France Musique.
Merci François Bédin. Le mi-temps des musiciens. Renaud. Machard. Machard et Equilbé, le duo de la semaine. Equilbé et Machard, devrais-je dire. Laurence Equilbé, qui est avec nous encore aujourd'hui et demain d'ailleurs pour cette série d'émissions à l'occasion de la sortie de son Requiem de Mozart. Ce très beau disque dont on a parlé beaucoup et dont on a écouté la quasi-intégralité. On va terminer aujourd'hui. J'allais dire, ça vous évitera d'acheter le disque, mais je ne devrais pas dire ça parce qu'il faut acheter le disque.
Oui, avec plaisir.
D'abord, il y a un texte.
D'abord, moi, je défends les labels, notamment les labels indépendants, ce beau label naïf qui nous a accompagnés depuis plusieurs années.
Ah, c'est vrai.
Donc, merci, merci.
Vous lui avez fait gagner de l'argent, monsieur.
Oh,
naïf.
Je crois pas beaucoup.
Non,
vous
non,
savez,
non plus. Vos albums de transcription sont vendus comme des petits pains.
Oui, en général, moi, j'ai la chance d'être suivi par de nombreux mélomanes et je les remercie beaucoup parce qu'après tout, on enregistre pour eux quand même.
Et oui, vous qui nous écoutez.
Sympa d'être, de sentir ces ondes de gens qui vous aiment bien, qui vous suivent. Mais c'est vrai que le disque de transcription 1 s'est vendu très très bien parce que l'Adagio de Barber, c'est tellement irrésistible. Je pense que Xentus l'a vraiment très bien chanté dans ce
disque. Donc en version Agnus Dei.
Oui, c'est ça, en version Agnus Dei. Deuxième, enfin bon, c'est vrai que la transcription a bien marché. Mais cela dit, on gagne, on fait pas d'argent avec la musique classique dans les disques.
C'est-à-dire quand vous sortez un album où vous enregistrez de la musique contemporaine ou des œuvres rares pour chœur a cappella, là évidemment, les ventes sont forcément moins grandes.
Oui,
quoique à l'international, je ne sais pas.
L'oratorio marche plutôt bien, etc.
Oui.
Mais enfin, ça ne vous fait jamais vivre. C'est plutôt du rayonnement, de la reconnaissance. Puis moi, ça m'intéresse toujours de partager. Bon, là, c'est une œuvre très, très connue, mais on a pu enregistrer des choses moins connues.
Ah, ça, oui.
Donc, voilà, c'est vraiment l'intérêt du disque. Et que c'est des très beaux objets de culture. Et voilà, mais...
Donc, il faut les acheter sous une forme ou une autre, c'est-à-dire en support physique ou bien, pourquoi pas, sous forme de fichiers numériques comme cela se fait maintenant. Alors, Laurence Equilbé, vous m'avez apporté quelque chose. C'est une surprise, m'avez-vous dit. Écoutons ce que cela donne. Dites-moi, Laurence Equilbé, ce que vous m'avez apporté là, c'est la troisième version de Nicolas Sarnoncourt sous Ecstasy.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est vous, alors?
Non, alors c'est un...
C'est pas vous.
C'est un disque que j'ai fait avec des artistes électro. Alors là, en l'occurrence, c'est Parawan. C'est un artiste électro qui s'est emparé d'un fragment de Requiem. Et donc, moi, je l'ai aidé à,
oui.
dans sa démarche, voilà. Donc, sur un projet qui s'appelait Private Domain. Mm-hmm. Et qui a comme ça, j'ai participé à l'arrangement avec des artistes électro qui souhaitaient arranger des extraits comme ça de musique classique.
C'est et quoi c'est pas du sampling, comme on dit. C'est pas comme on fait certains avec Steve Reich, vous savez, qui reprennent, ou avec Pierre-Henri. Pierre-Henri a été beaucoup remixé
oui,
aussi.
Tout à fait, tout à fait.
C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est connexe comme
oui,
travail.
Oui, tout à fait
hein,
connexe.
C'est, ça,
ah, oui, oui. c'est vraiment du travail à quatre mains, mais par contre, c'est vraiment leur version.
Oui, c'est ça. Ouais. Et on a bien reconnu, évidemment, un passage du Requiem de Mozart dont nous avons beaucoup parlé l'autre jour, à propos de cet enchaînement avec ce qui précède d'ailleurs, et de cette petite cadence de cordes. On a écouté, rappelez-vous, quatre versions différentes de ce passage du Requiem de Mozart. Vous pouvez toujours vous référer à nos émissions qui d'ailleurs sont en podcast sur le site de France Musique et sur le site du Mi-temps des musiciens. Et vous pouvez même les écouter pendant 3 ans. Donc vous voyez, si vous ne vous enlacez pas, vous pouvez y revenir autant que vous voulez. Elles y seront et elles vous attendront. Laurence Equilbé, alors on va repartir dans cette exploration du Requiem de Mozart, votre version du Requiem de Mozart avec la fin, le Sanctus, le Benedictus, l'Agnus Dei, le Lux Aeterna, qui est la partie la moins écrite par Mozart, justement. Hein.
Alors, alors la fin, c'est complètement du Mozart, parce que c'est note pour note.
La fin, oui, bien sûr.
Le début, dont Süssmayer a changé juste le texte.
Voilà, hein. Il a repris la musique voilà. du début, c'est
mais
ça. Mais le Sanctus, Benedictus, etc.
Agnus Dei, là, pour le coup, à part le Benedictus, on aurait peut-être un embryon de thème noté sur le cahier d'un élève. Et puis dans le Sanctus, alors ça, c'est peut-être intéressant à dire aussi aux auditeurs, c'est que les musicologues aujourd'hui revendiquent vraiment le fait que cette œuvre est quand même intégralement de Mozart, dans le sens où il y a des réminiscences d'autres numéros de la pièce dans le Sanctus
oui.
et dans l'Agnus Dei, par exemple. Des
mais
thèmes,
ça,
des thèmes cachés. Et ça, ils disent que c'est une technique que Süssmayer ignorait complètement.
Ah, vraiment
oui,
c'est
oui.
pas Süssmayer qui, justement,
non.
aurait fait du Süssmayer avec des vrais morceaux de Mozart
non,
dedans, vous voyez ce que je veux dire.
C'était vraiment une technique de composition qui était, paraît-il, tout à fait étrangère
Tiens.
À celle de Süssmayer.
D'accord.
Donc voilà, ce qui prouve qu'il y avait beaucoup plus de fragments qu'on ne pense sur le Sanctus et le Benedictus et l'Agnus Dei.
On a évoqué en début de semaine, Laurence Equilbé, cette possible transmission orale. Vous vous souvenez
oui,
de
oui.
ces élèves qui chantaient autour de Mozart, qui lui chantaient des passages. Et donc on peut imaginer que Mozart, étant très affaibli...
Il y avait ses élèves, dont Süssmayer, les fameux Ebler, et donc des arrangeurs. Et puis il y avait aussi le chanteur qui a créé Zarastro, le chanteur qui a créé Tamino.
Et oui.
Donc, il venait à tour de rôle, ainsi que les plus grands professeurs de médecine de l'époque, pour voir Mozart, qui était alité depuis le 20 novembre.
C'est ouais. amusant, d'ailleurs, l'autre jour, lorsque nous avons écouté la version de Robert Levin, vous vous souvenez de
oui.
justement de ces passages du Requiem de Mozart, qu'il a complètement recomposé. Il y avait à un moment donné une allusion à Tamino. Peut-être lui aussi s'est-il amusé
oui,
à
oui.
faire ce travail hein,
oui, oui, tout à fait,
ouais. De Salmi, j'oserais presque dire de Salmi musical.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est vrai que Mozart était, au moment de sa propre mort, il était vraiment très terrifié par la mort et il avait renoncé à la présomption d'immortalité, croit-on. Hein. Donc c'était quand même un moment tout à fait difficile et on dit quand même que la veille de sa mort, il a chanté l'air de Papageno, quoi, par exemple. Donc ça devait être un mélange d'humeur très très contradictoire et c'est intéressant de voir que lui-même était persuadé d'avoir été empoisonné par de l'aquatofana, là, ce poison très très lent. Et voilà, donc les grandes légendes qui courent autour de sa mort, y compris sur son enterrement. On dit qu'il a été enterré comme un chien dans la fosse commune.
Pas du
enfin,
tout.
Non, mais c'est ce que la
c'est,
légende.
C'est ce que la légende dit, voilà. Mais apparemment, c'était un enterrement normal
voilà.
pour quelqu'un de son rang, quoi.
C'était,
c'est ça.
Voilà,
hein,
un enterrement normal, la famille ne suivait pas, il a été enterré.
Oui, on disait qu'il est allé seul, voilà. Mais les familles ne suivaient
pas.
Au cimetière.
Mais le cimetière était à une heure de marche, quand même.
Ah
déjà,
oui, c'est ça. Oui.
Et ensuite, il a été enterré, effectivement, dans un tombeau communautaire de 16 places.
Puisqu'il n'est pas un charnier voilà, de 120
comme,
personnes. Quoi.
Il a été enterré selon son rang dans un enterrement de 3e classe, je crois, pour être exact, de l'époque, etc. Donc, mais c'est assez fascinant, toutes ces légendes. Mais c'est vrai que la question de la mort, pour ça que j'en parle aussi, c'est que Mozart était non seulement terrifié par la mort, mais il faut savoir que lui-même était d'une famille de 7 enfants, dont 5 étaient morts. Donc il n'était plus que sa sœur Nannerl et lui. Et lui-même avait perdu 4 enfants. Donc c'est quand même ce personnage,
oui.
la mort, à cette époque-là, c'est quelque chose de terrifiant.
On écoute Sanctus Benedictus, j'allais dire Sanctus. Vous faites la prononciation à l'allemande, tout d'un coup, je me demande.
Oui, mais l'homme Sanctus, on peut faire un S assez fort. Parce que en allemand, cet S-là n'est pas Z.
C'est pas Sanctus, comme non, je le fais non. Avec une sorte d'accent à la Karl Lagerfeld, soudainement, qui n'est pas du tout à propos. Sanctus Benedictus, Agnus Dei, et le Lux Aeterna, qui est donc évidemment le retour du début du Requiem, par vos interprètes, Sandrine Pio, soprano, Sarah Mingardo, contralto, Werner Gura, ténor, Christopher Purvis, basse, le chœur de chambre Accentus, votre orchestre Insula Orchestra, que vous dirigez donc, Laurence Equilbé, cette presque toute nouveauté, puisqu'elle est sortie le 29 septembre, il y a donc un peu plus de deux semaines.
Enregistrée à la Chapelle Royale de Versailles.
Oui, dans une belle prise de son, je trouve, c'est quand même une acoustique assez large, non ?
Ah oui, c'est généreux, oui.
Mais c'est précis et c'est clair, je trouve.
Oui, mais c'est en tout cas un très beau son, un très beau son dans l'acoustique, dans ce qui ressort, c'est très riche.
Yeah.
On parlait de la symbolique des intervalles, on entend une belle quinte là.
Ah oui, 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 tout à fait.
Alors ça, elle veut dire quoi cette quinte là, Laurence Équilbé, à la fin de votre version du Requiem de Mozart?
Non, mais la quinte, oui, c'est toujours l'homme et l'univers, hein. C'est 2 plus 2 plus 3, et puis voilà, donc c'est toujours une union assez harmonique de l'homme avec l'univers, la quinte.
On a entendu la fin de ce requiem, le Sanctus, le Benedictus, l'Agnus Dei, Lux Aeterna. Donc avec, pour ce qui concerne les trois premiers, l'écriture quasi exclusive de Süssmayr, bien sûr. Mm-hmm. Et puis pour la fin, le retour au début, sur de nouvelles paroles, bien sûr, de cet introïde qu'on a entendu en début de semaine. Et puis de ce Kyrie parodié, si on peut dire, avec un nouveau texte.
Parce que c'est ça devient Cum Sanctus. Cum Sanctus,
voilà, c'est ça. C'était vos ensembles, Chœur de chambre Accentus, l'orchestre Insula que vous dirigez. Ça vient de sortir chez Naïve avec Sandrine Pio, Sarah Mingardo, Véler Gura et Christopher Purvis qui en sont les solistes.
France Musique.
Où nous sommes en compagnie de Laurence Équilbé, vous l'avez compris, si vous suivez cette émission et si vous nous suivez depuis le début de la semaine, pour continuer à évoquer ce requiem de Mozart, auprès duquel nous allons rester, mais dont nous allons aussi un petit peu nous éloigner pour mieux nous en rapprocher, naturellement, c'est le principe de cette émission. On aime beaucoup les liens connexes ici, chère Laurence. Et je vous propose, puisque vous m'avez apporté une petite chose tout à fait pétaradante tout à l'heure, quelque chose d'un peu moins pétaradant, on est en ré mineur, c'est-à-dire la tonalité du requiem. Une tonalité, évidemment, que Mozart affectionne, dans laquelle on trouve pas mal de ses œuvres importantes, n'est-ce pas ? Don Giovanni, c'est ça, hein, c'est ré mineur. Puis son fameux concerto en ré mineur, bien sûr, pour piano. Alors ça, c'est un travail qu'il a fait à la fin de sa vie aussi. Vous avez évoqué l'autre jour le baron von Swieten, n'est-ce pas, qui était
un grand collectionneur.
Collectionneur qui... de musique, enfin de manuscrits et de...
De musique contemporaine.
De musique contemporaine, voilà. Et chez qui pas mal de compositeurs se sont au fond familiarisés avec la musique ancienne, avec Bach, en particulier avec Handel, qui a été quelque chose de très important pour Mozart et pour Beethoven aussi.
Oui, hein. Parce qu'il avait vraiment la copie de beaucoup d'œuvres de Bach, Handel. Et donc, c'est vrai que Mozart...
Tout ça avant les éditions, les grandes éditions qui ont fleuri ensuite.
Mozart allait souvent chez lui pour lire la musique italienne, la musique... voilà.
C'est incroyable.
C'est intéressant. Ouais.
Et donc, Mozart a rédigé un ensemble d'adagio et fugues tout à fait étonnant, puisqu'en fait, il garde des fugues de Jean-Sébastien Bach qu'il prélève dans différents recueils, notamment le clavier bien tempéré, et il écrit le prélude qui va avec. C'est écrit pour trio à cordes, pour trois parties de cordes, et là, ça a été enregistré par l'Académie für Alte Musik, que vous connaissez, puisque vous l'avez dirigé.
Absolument, moi j'aime beaucoup cet orchestre.
L'orchestre de Berlin, très bon orchestre bien sûr, et qui joue donc ce Köchel 405 de Mozart, dans un style archaïsant, très intéressant.
Thank you.
Un exemple de Bach rencontré par Mozart, si j'ose dire, c'est Mozart qui transcrit donc une fugue de Jean-Sébastien Bach pour trois parties et qui lui adjoint un prélude de sa composition. Et là, l'Académie für Alte Musik de Berlin a décidé d'augmenter un petit peu, non pas en partie, mais de jouer ça dans une formation orchestrale, alors qu'on les connaît pour un trio à cordes en général. C'est une excellente idée et cela montre l'intérêt qu'avait Mozart, on le disait tout à l'heure, Laurence Equilbé, l'intérêt qu'avait Mozart à la fin de sa vie pour ses musiques anciennes, pour la découverte de Bach, pour Beethoven aussi, ça a été la même chose. Ouais. La découverte de Handel a été c'est fou comme ces compositeurs les ont marqués, c'est fou comme finalement apparemment ils les connaissaient peu.
Ah oui, hein. Et ils transcrivaient beaucoup toutes ces œuvres, notamment pour qu'elles soient connues, parce qu'elles n'étaient pas forcément jouées du vivant là, et donc pour qu'elles voyagent, la transcription était vraiment un moyen. Les compositeurs adoraient se transcrire les uns les autres.
Lundi, Laurence Equilbé, vous avez rappeler que trois inspirations avaient été à l'origine de ce requiem de Mozart, trois compositeurs. Un fils de Bach, justement.
Wilhelm Friedman. Ouais.
Il y avait évidemment ce requiem de Michael Haydn qui ressemble effectivement beaucoup à celui de Mozart. On voit bien que Mozart a pris des choses chez ce Haydn et les a transformées en général. C'est lui l'alchimiste, hein. C'est dans ce sens-là que ça passe. Je ne dis pas que la musique de Michael Haydn est du plomb et qu'il en a fait de l'or, mais enfin, en tout cas, les solutions qu'il a prises chez les uns et les autres ont été magnifiées. Et alors donc, ce requiem de Gossec fait partie aussi de ces œuvres qui l'auraient inspiré.
En tout cas, Gossec, alors le requiem probablement aussi, mais c'est vrai que Mozart admirait beaucoup Gossec.
Oui, et John Edward Gardiner, dans le texte d'accompagnement de son enregistrement du Requiem, raconte que l'Agnus Dei de Gossec ressemblerait beaucoup à celui de Mozart.
Oui,
alors je vous propose qu'on écoute d'abord, avant d'entendre de plus larges extraits de ce Requiem de Gossec, d'entendre cet Agnus Dei ici. Bon.
Ça ressemble un peu quand même.
Ça ressemble un peu quand même, nous dit Laurence Equilbé. Mais enfin, c'est pas là vraiment qu'il est allé chercher.
Alain Delon.
Sussmayr est allé chercher, parce qu'il s'agit évidemment de
Sussmayr. Non, c'est le début. Agnus Dei, évidemment, il prend la même prosodie, le même rythme.
Mais ça,
en même temps, y a pas
comment mettre un texte en musique, hein, la prosodie et la prosodie.
Il n'y a pas 36 façons de dire Agnus Dei.
Donc Mozart s'y intéressait, mais on dit que Sussmayr connaissait vraiment bien le requiem de Gossec, qu'il s'en serait inspiré pour terminer donc, ce fameux requiem de Mozart dont nous avons beaucoup parlé. Alors justement, puisqu'on le connaît un petit peu moins, ce requiem de Gossec, je vous propose d'en entendre par Jean-Claude Malgoire, qui l'interprétait là à la tête du chœur de chambre de Namur, la grande écurie et la chambre du roi, d'autres extraits, la fin de cette messe. pour les défunts, Missa pro defunctis, qui est une œuvre donc du 1760 et que connaissait probablement Mozart. En tout cas, c'était un compositeur qui l'intéressait et que connaissait absolument Süssmayr. Vous avez Salomé Haller, Ingrid Perruche, Cyril Ovitti, Benoît Allaire, Alain Buet et Cataline Varconi qui sont les solistes de cette messe.
Thank you.
la fin de cette Missa pro defunctis qui date de 1760, messe pour les défunts. Ben oui, on peut dire requiem, messe des morts, messe pour les défunts. Ce sont les différentes appellations en français qu'on trouve chez des tas de compositeurs. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'étais avec le chef d'orchestre et claveciniste Skip Sampé pour parler de la messe des morts de Jean-Gilles. Et nous avons d'ailleurs évoqué Gossec à cette occasion, parce que c'est aussi l'une des messes des morts les plus importantes du répertoire français. Celle-ci date de 1760. Vous avez entendu la fin de cette œuvre. Je vous rappelle les interprètes de cette version. Salomé Allaire, Ingrid Perruche, Cyril Ovitti, Benoît Allaire, Alain Buet, Cataline Varconi, pour les solistes, le chœur de chambre de Namur. La grande écurie et la chambre du roi, dirigée par Jean-Claude Malgoire. Merci à l'équipe qui était autour de nous aujourd'hui. Jason Taous, Flora Sternadel qui m'a aidé à préparer cette émission et Géraldine Prüttner qui l'a réalisée. Merci à vous, bien sûr, Laurence Equilbet, d'être venue. On vous retrouve encore demain. Vous avez le courage de revenir.
Avec plaisir, je reviens, c'est vrai, bien sûr. Ouais.
Bon, c'est gentil.
France Musique.
Il est 14h sur France Musique justement et c'est Clément Rochefort que vous retrouvez pour ses dépêches notes.